enfin le l'affrontement sera le plus violent, c'est en 390, lorsque un gouverneur militaire d'Orient, enfin oui, d'Orient, de Grèce, est assassiné par la populace à Thessalonique, et l'empereur, pour établir l'autorité, ordonne de rassembler toute la population dans le stade et de la faire massacrer. Alors, comme l'empereur réside à Milan, Ambroise en a évidemment connaissance, et il va voir Théodose et lui demande de rapporter cette mesure. Alors, Théodose le fait bien volontiers, se rendant compte que sous l'empire de la colère, il a aussi dépassé les bornes de ce que le rétablissement de l'autorité peut-être exigeait. Et il envoie un courrier pour rapporter la mesure, mais hélas, le courrier arrive trop tard, si bien que il y aura 7 000 victimes, donc liquidées par l'armée, dans l'armée chrétienne, hein, qui portait les insignes du labarum sur ses boucliers et ses enseignes. Donc 7 000 victimes. Alors Ambroise se met en colère et il exige de l'empereur qu'il fasse acte de pénitence publique. Hein. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il n'y avait pas la confession individuelle, enfin disons auriculaire, donc on entrait dans l'ordre des pénitents et on faisait pénitence en jeûnant, au pain et à l'eau, revêtus d'un vêtement grossier. Et l'empereur le fait. Donc l'empereur reconnaît sa faute publiquement. Alors, vous voyez quand même, une chose pareille, on pourrait se dire, il perd la face, il perd l'autorité. Eh ben non, parce que déjà au IVe siècle, on est dans un climat de chrétienté. Et les gens, au contraire, se disent, ben voilà, quand même, notre empereur, c'est un bon chrétien. Parce que, certes, il massacre 7 000 personnes, mais il est capable de s'en repentir. En tout cas, son repentir est tellement sincère que Ambroise le réconcilie. Et d'ailleurs, il prononcera l'éloge funèbre de Théodose, et un éloge funèbre, enfin un panégyrique extrêmement touchant, parce que malgré ses oppositions et ses conflits, eh bien, ils étaient, enfin, réellement, ils s'estimaient mutuellement. Et vous voyez que parfois, que l'amitié peut aller, ça peut aller très loin, hein. Enfin, dans le fait d'assumer des conflits. Donc, alors, vous voyez un personnage qui a du répondant, hein. Cet endroit, c'est quand même pas n'importe qui. Humainement, c'est vraiment un homme accompli. Alors, c'était un pasteur tout à fait conscient de ses devoirs aussi, on pourrait dire, ecclésiastiques, pas simplement de... Parce que là, on peut dire quasiment c'est le patriarche d'Occident, hein, comme celui de Constantinople. Mais donc, il était véritablement le confident des empereurs. Alors, il était tellement. On souligne qu'il célébrait quotidiennement la messe, à une époque où ce n'était pas fréquent, mais aussi l'office divin, donc qu'il a orné de ses hymnes. Je vous en dirai quelques-unes tout à l'heure. Et également, il se distingue par sa prédication, son activité pastorale, une activité pastorale qui fera par exemple qu'un petit rhéteur prétentieux de 25 ans trouvera l'oreille de l'archevêque si occupé de Milan. Le petit rhéteur prétentieux, c'est Augustin, le petit carriériste arriviste, c'est Augustin. Et Augustin qui trouvera en Ambroise, en quelques entretiens, ce qu'il n'a jamais pu trouver chez les manichéens, les néoplatoniciens, et puis encore la secte qu'il avait fréquentée, eh bien, il va trouver une réponse à toutes ces questions avec un Ambroise qui se met à la portée d'un étudiant. Qui ne connaît, dont il ne pouvait pas imaginer qu'il serait le principal docteur d'Occident après. Alors, Augustin, qui a d'ailleurs des pages... Tiens, là, quand je étudierai Augustin, je vous reparlerai d'Ambroise. Il a des pages très attendrissantes sur Ambroise, hein, sur le rôle qu'Ambroise a joué dans sa vie. Et il notait notamment qu'il n'avait même plus le temps de manger. Dans les confessions 6.3.3. Alors, évidemment, quand Augustin dit des choses de ce genre, il faut certainement y voir une ligne imprimée en italique. Vous vous souvenez de ce passage de l'Évangile où on disait qu'à cause de l'activité des apôtres, ils n'avaient plus le temps de manger, que Jésus leur dit de se mettre un peu à l'écart pour reprendre des forces. Mais voilà, en tout cas... Ambroise était surmené, et aussi une chose que ses biographes ont relevé, c'est que quand il lisait, eh bien, il lisait la bouche fermée. Et voilà pourquoi, parce que ça lui permettait de lire plus rapidement et donc de faire davantage face à son travail. Parce qu'autrefois, on lisait toujours à haute voix. Et là, donc, il lit des yeux pour aller plus vite. Donc ceux qui ont visité la basilique Saint-Ambroise à Milan, il y en a peut-être parmi vous, oui. Vous avez dû voir probablement la mosaïque qui représente un personnage, les épaules tombantes, la tête basse, des traits tirés. Et qui représente Ambroise. Un Ambroise épuisé par sa charge. Donc, véritablement, un évêque qui ne s'écoutait pas. Je pense que... Non, mais il donne l'impression d'une sorte d'accablement physique. C'est impressionnant. Alors, son œuvre, eh bien, elle est multiforme. Comme tous les pères, il y a tout un volet exégétique. Saint Ambroise, d'abord, a travaillé ses homélies et il les a retravaillées pour la publication. Donc, un travail très fin. Il nous a laissé également une vingtaine de commentaires scripturaires, dont un seul porte sur le Nouveau Testament, c'est sur l'Évangile de Saint-Luc. Alors pourquoi ? Parce qu'il a essentiellement travaillé à partir de sources, toujours de l'Orient, des sources grecques, qui s'intéressaient peut-être beaucoup plus aux écrits, par exemple, de l'Ancien Testament, toujours dans leur vision allégorique, typologique, pour sauver le texte de l'Ancien Testament et éclairer celui du Nouveau, que les pères grecs considéraient suffisamment parlant pour ne pas avoir à le commenter, mais du coup, on pouvait l'éclairer à partir des transpositions allégoriques de l'Ancien, et en même temps, ça éclairait, très franchement, le texte de l'Ancien, qui, par certains aspects, n'était pas véritablement sauvable. Hein. Il y a des passages de Saint Grégoire de Nice, justement dans la vie de Moïse, qui dit, oui, si on prend ça au sens littéral, il y a de quoi fuir, hein, mais prenons-le au sens spirituel, etc. Et on l'a même appelé, notre Ambroise, on l'a même appelé Philo Christianus, hein, le Philon d'Alexandrie chrétien. Parce que, rodé comme il l'était à la rhétorique grecque, il avait assimilé les méthodes de l'école d'Alexandrie, hein, notamment d'Origène, mais aussi de Saint-Basile, etc. Alors, bien sûr, on dénote aussi l'influence du néoplatonisme, notamment à travers la fréquence de ses traités ou ses prédications sur la chasteté, la virginité, la continence, etc., etc. Il y a un certain mépris de la chair, hein, il ne faut pas il ne faut pas le nier, dans l'œuvre de d'Ambroise. Je vous rappelle qu'il était après tout célibataire. Hein. Alors, avec Hilaire, il est effectivement le plus grand propagateur de la pensée grecque dans l'Occident latin. Alors également, il a, et toujours dans son activité de pasteur, je vous rappelais, c'est à vous, oui je crois, je vous rappelais qu'au moment de... Une des grandes activités des évêques, c'était de baptiser les catéchumènes, donc de les former, et donc de les former comme catéchumènes, et ensuite de continuer à les catéchiser comme néophytes. Et c'est à travers ces enseignements qu'on a la prédication épiscopale sur les sacrements. Alors on a justement un De Sacramentis de saint Ambroise, qui est un petit peu le résumé de tout son travail de formation, parce qu'on préparait les catéchumènes à recevoir le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, à faire pénitence, donc, etc. Donc un certain nombre de sacrements qui sont repris dans ses prédications. Évidemment, il y a des commentaires du symbole qui sont l'armature dogmatique, si vous voulez. Vous voyez, on commente le symbole, on commente les sacrements, on commente la morale, puisque le baptême, comme disait Grégoire de Nice, l'eau du baptême n'est que de l'eau s'il n'y a pas la volonté de se convertir. Donc il y a tout le volet moral du baptême, et on enseigne à prier. Donc, vous retrouvez les quatre parties du catéchisme. Vous voyez, les quatre parties du catéchisme depuis Luther, en gros c'est lui qui a eu l'idée, repris par le Concile de Trente et poursuivi après, eh bien tout ça s'est fondé sur l'enseignement catéchétique baptismal des évêques de l'Antiquité chrétienne. Voilà. Donc le De Sacramentis et le De Mysteriis, qui sont les deux traités qui résument tout ce travail. Voilà. Des mystères, hein, les mystères. Mysterium, quand c'est traduit en latin, ça donne mysterium, mais mysterium, les mystères, c'est comme c'est sacramentum aussi. Donc, vous voyez, sacrement, mystère, ce sont deux termes qui sont équivalents. Alors, il a, comme je vous le disais, il a aussi composé de la poésie. C'est clair que il a fréquenté les meilleures écoles. Hein. Donc, je vais vous en lire quelques-unes, là, comme la fois dernière, je vous avais lu des hymnes de prudence. Je vais vous lire des hymnes de
Saint-Ambroise.
Il en a composé qui ont subsisté dans l'hymnaire, pas loin d'une vingtaine. Qui sont. Alors, il semblerait que le Gloria, ou enfin le Te Deum, n'est pas de lui. Ou l'exultète non plus, même si ça lui a été attribué. Enfin, on attribue toujours les... On prête corriche, hein, vous connaissez l'expression. Alors, l'une de ces hymnes, l'Eterne Rerum Conditor, remonte au carême de 386. Et c'est saint Augustin qui le commente dans les Confessions 9, 7, 15. Il dit « Pour empêcher que le peuple abattu ne séchât d'ennui, fut institué à la mode orientale le chant des hymnes et des cantiques. L'usage s'en est maintenu depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, et il a été suivi en maints endroits, voire presque partout, imité de ton troupeau dans le reste du monde. » Donc, vous voyez, l'origine de l'hymnologie latine vient de Milan. Alors, il semblerait qu'elle se soit développée dès le début, on n'imaginait pas que la liturgie fût privée de chant. Hein. Donc, mais malheureusement, comme elle avait été utilisée par les gnostiques dès le début du IIe siècle pour véhiculer des doctrines hérétiques, eh bien, l'épiscopat, aussi bien en Occident qu'en Orient, avait supprimé les hymnes, tous les cantiques, parce que, pour en revenir à la seule parole de Dieu, parce que ça pouvait être vecteur d'hérésie. Alors que, par exemple, dans d'autres lieux ailleurs, en Syrie, en Éthiopie, eh bien, ces hymnes font vraiment partie du patrimoine depuis toujours. Chez nous, il y a eu un coup de sécateur, et elles sont nées à nouveau à une période de plus grand d'apaisement dogmatique. Alors, je vais vous lire quelques-unes de ces hymnes qu'on trouve dans l'hymne de Solène, par exemple. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des hymnes pour le temporal. Alors, celle qu'on hymne de l'Avent, par exemple, qui s'appelle « Veni Redemptor Gentium »,« Viens, Rédempteur des nations, fais voir la Vierge qui enfante, que tous les siècles s'émerveillent, enfantement digne d'un Dieu. Non pas d'une semence d'homme, mais par le souffle de l'Esprit, le Verbe de Dieu s'est fait chair et le fruit du ventre a fleuri. Le sein de la Vierge s'émeut, sa virginité reste intacte, brillez, étendard des vertus, car Dieu se trouve dans son temple. Qu'il s'avance hors de sa chambre, royal palais de la pudeur, ce géant à double nature, pressé de parcourir sa route. Et puis, voilà, égal à ton Père éternel, revêt la chair comme un trophée, affermis notre corps infirme de ton éternelle puissance. Ta crèche déjà resplendit, la nuit exhale un éclat neuf, que nulle nuit ne le ternisse, qu'il brille d'une foi sans fin. Voilà. Puis après, il y a la doxologie. Et on trouve dans ce strophe, c'est pour ça qu'on pense au Veni Creator. Le Veni Creator reprendra une partie. Equalis et anopatri, carnis tropeo shingere, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ce sont les deux vers même du Veni Creator. Alors voilà, ça c'est pour, par exemple, pour... le temps de l'Avent, il me semblait qu'il y avait également quelque chose pour le... Oui, m'enlever. Ah oui. Alors, il y a aussi l'hymne de l'Ascension. Qui est Hic est dies verus Dei, tout pur de sa sainte lumière, voici donc le vrai jour de Dieu où le sang sacré a lavé le monde et son affreux péché. Il rend la lumière aux aveugles, aux égarés il rend la foi, devant le larron pardonné qui n'est délivré de la peur. Point d'interrogation. Cette grâce étonne les anges, ils voient que ce supplicié, ce coupable aux côtés du Christ, va goûter le bonheur du ciel. Ô mystère tout admirable, pour laver le monde souillé, pour enlever tant de péchés, la chair a purifié la chair. Est-il merveille plus sublime, le péché obtient son pardon, l'amour libère de la peur, la mort renouvelle la vie. Demeure, ô Jésus, pour les âmes, la joie pascale à tout jamais, à ta grâce nous renaissons, dans ton triomphe entraîne-nous. Vous voyez, c'est une poésie qui est très dense dogmatiquement, hein. C'est l'œuvre d'un théologien. Alors, et puis il y a les hymnes très connus qui rythment les petites heures, notamment l'hymne de tierce, qui est « Iam surgit ora tertia ». Voici venir la troisième heure où le Christ monta sur la croix. Que cesse tout pensée d'orgueil que le cœur s'applique à prier. Qui porte le Christ en son âme n'a point de désir pour le mal. Il aspire de tous ses voeux à recevoir le Saint-Esprit. Voici l'heure qui mit un terme à la vieillesse du péché. Désormais, la grâce du Christ inaugure le vrai bonheur. Et puis, je ne les cite pas toutes. Je cite une de Vêpres qui est connue, Deus Creator Omnium. Dieu qui a créé toutes choses et qui dirige l'univers, tu renouvelles le jour de lumière, la nuit des bienfaits du repos. Et le sommeil refait nos forces, rend dispo nos membres fourbus. Il soulage nos âmes lasses, détend nos chagrins anxieux. Le jour tombe et nous rendons grâce. La nuit se lève et nous prions. Nous te célébrons par cet hymne. Aide-nous à remplir nos voeux. Accompagnement musical. Que le fond de nos cœurs te chante et que t'acclame notre voix, qu'un amour très pur te chérisse et que t'adore un esprit droit. Lorsque les ténèbres profondes auront emprisonné le jour, puisse la foi ignorer l'ombre et la nuit briller de la foi. Nous prions le Christ et le Père, etc. Donc la doxologie habituelle.